Radio Okapi.
Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi.
Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien. Au Capi Service, nous allons parler du civisme fiscal. Pourquoi est-il important de payer les impôts? Vous savez que le président de la République a lancé le samedi 11 septembre dernier la campagne sur le civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics. Cette campagne va s'étaler sur 6 mois sur tout le territoire national. Dans le même ordre d'idée, le ministre des Finances a annoncé la création d'un numéro vert gratuit pour dénoncer tous les cas de corruption, des concussions et des coulages dans la gestion des recettes publiques. Pourquoi est-il important de payer les impôts? On en parle aujourd'hui dans cette deuxième partie de ce magazine au Capi Service avec notre invité. Eh bien, il s'agit de Monsieur Jacques Kambala Chilombo, conseiller principal du coordonnateur adjoint de la cellule pour le changement des mentalités. Jacques Kambala, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service. Alors, parlez-nous de cette campagne sur le civisme fiscal. Que vise exactement cette campagne?
Merci beaucoup. Merci à Radio Capi de nous avoir invités. La coordination pour le changement de mentalité dans ces missions travaille et œuvre pour la prévention, la lutte contre toutes les antivaleurs, l'incivisme fiscal étant une antivaleur qui s'est généralisée dans le vécu, le quotidien du Congolais. Nous avions donc eu, sous l'impulsion du chef de l'État, en collaboration avec le ministère des Finances, du Budget et toutes les régies, régies financières concernées par cette question, mis sur pied donc cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable du denier public en vue d'implémenter la culture fiscale dans toute la société congolaise. Cette campagne se veut une campagne nationale qui s'étendra sur 6 mois et nous pensons que si tout le monde s'y met, tout le monde s'implique et s'en approprie, nous pourrons arriver à faire développer notre pays, à accroître les recettes et à donner au gouvernement ou à l'État congolais le moyen de sa politique.
Bien, vous avez dit tout à l'heure que c'est pour implémenter la culture fiscale dans notre pays. Alors, beaucoup de gens hésitent souvent en ce qui concerne l'impôt. Ils se disent, mais on n'a plus confiance, on donne notre argent, et il n'y a pas de redevabilité, on ne nous dit pas comment cet argent est utilisé, etc. Ce qui fait que beaucoup hésitent souvent à payer les impôts. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet aspect des choses?
Oui, les craintes peuvent être justifiées si jamais ça reflète ici un rejet généralisé de la société, un rejet donc de cette mégestion qui a caractérisé tous ceux-là qui ont eu à gérer les deniers publics durant les différentes républiques qui se sont succédées depuis l'indépendance. Mais nous devons aussi ne pas oublier l'histoire, que le Congolais n'a pas la culture fiscale parce que déjà, si le Congolais en général a accepté l'indépendance, entre autres parce qu'il voulait rejeter l'idée de continuer à payer l'impôt au colonialisme. Et voilà, donc on n'a pas enseigné à notre peuple que l'État planificateur a besoin d'avoir d'une manière soutenue des entrées réelles et ne peut développer tous les services dédiés à la population que lorsque tout le monde honore ses impôts, taxes et redevances. Il n'y a pas d'autre voie, à moins qu'on veuille rester une nation totalement dépendante de l'aide étrangère. Mais si on se veut autonome et indépendant économiquement, nous devrions donner à l'État le moyen de sa politique et ça passe par le paiement des impôts, taxes et redevances, qui est un devoir constitutionnel. Donc cette campagne vise à sensibiliser quiconque sur ce devoir constitutionnel, mais entre autres aussi sur le pourquoi de tel ou tel impôt, tel ou tel autre taxe, tel ou tel autre redevance, comment ça devrait être utilisé. Et nous devons aussi dire ici, mon ami, c'est pas parce que ça a été mal géré que la notion du devoir est annulée. Je donne un exemple. Il y a eu des bavures sur le plan médical. Certains médecins auraient raté telle ou telle autre opération. C'est pas pour autant que quand on tombe malade, on se refuse d'aller à l'hôpital. Donc, la mégestion de certains n'annule en rien le devoir de tout Congolais de payer les impôts. Par contre, la deuxième partie du thème de cette campagne vise justement à rendre responsable tout celui qui a en charge la gestion des deniers publics, entre autres aussi des impôts, taxes et redevances. Donc cette campagne est transversale, n'épargne personne, et nous pensons que si tout le monde devient conscient de la nécessité d'honorer ses devoirs constitutionnels en ayant un équilibre entre ses droits et ses devoirs, nous arriverons à relever assez rapidement notre nation.
Bien. Alors, dites-nous, Monsieur Jacques Kambala, lorsque je paye, je suis citoyen, je paye les impôts. À quoi, vous avez dit tout à l'heure, c'est pour donner à l'État les moyens de sa politique. Mais à quoi va servir concrètement l'argent que les citoyens, les contributions des citoyens à travers le pays?
Ça dépend des natures de chaque impôt ou taxe ou redevance. C'est sûr que les lois qui définissent le fonctionnement de chacune des régies établissent aussi le comment ces fonds des contribuables devraient être utilisés. Mais je prends un exemple simple. Il y a pas assez longtemps, le ministre de Médias, avec la Coordination pour le changement de mentalité, avait fait un briefing sur le lancement de cette campagne faite en septembre dernier par le chef de l'État au Palais du Peuple devant tous les corps constitués. Et on relevait l'ignorance qu'avaient même les fonctionnaires de l'État sur le pourquoi même que la DGRAD existe. Très peu connaissaient quelles sont les missions de telle ou telle autre régie. Nous nous sommes rendus compte qu'il est important de vulgariser sur chaque impôt. Il y a des gens qui savent pas, comme locataire, qu'ils devraient, en partant, retenir X pourcentage sur le coût du loyer qu'ils payent pour les déverser au niveau de taxes sur location qui, quelques perçoivent la DGRK. Donc, il y a un grand besoin d'informer sur les taxes et tout le monde, quand il a l'information, vous allez voir, la peur de l'inconnu va tomber et il y a des bénéfices à payer tel ou tel autre impôt pour que ça soit redéversé dans les services bâtir des centres hospitaliers, construire des écoles, des infrastructures routières, les ponts, encourager même le développement dans le milieu rural. Et donc, ça passe par toutes ces taxes et impôts.
Bien, alors, Monsieur Jacques Kesson, pouvez-vous nous citer ces différents types d'impôts, taxes et redevances que les citoyens sont appelés à payer?
Je prends le plus basique et le moins payé. On prend ou la ville province de Kinshasa par exemple. Tout utilisateur d'automobile, tout celui qui a un véhicule devrait au moins payer ce qu'on appelle communément la vignette. Mais vous allez vous rendre compte que avec le bassin qu'on a, le parc automobile qu'il y a dans cette ville province de Kinshasa, il n'y a même pas 20% de personnes qui payent ces vignettes-là. Et ça fait de sorte que la ville et l'État sont dépourvus de moyens pour rendre des services sur l'entretien des routes, l'assainissement de notre milieu de vie. Donc, c'est important. Il y a des gens qui ont des propriétés qui ne payent pas les taxes liées aux impôts fonciers. Et pourtant, ils sont propriétaires d'une, trois, quatre propriétés dans le même espace géographique où ils sont. Donc l'État, la ville ou le gouvernement central qui est concerné par la gestion de ces taxes-là est privé de moyens de vous rendre le service qui convient à cela. Donc, pour ne prendre que ces deux-là, si on commence à en prendre conscience, je pense que tout le monde, s'il honore ses engagements, nous aurons une autre configuration de notre ville, la plus belle ville de Kinshasa qu'on aimait autrefois.
Voilà, nous avons la vignette. On parle aussi de l'impôt professionnel sur les rémunérations, l'IPR.
L'IPR, c'est tout employé. Nous, par exemple, au niveau de la coordination pour le changement de mentalité, étant employé de l'État, un agent public au niveau de la présidence, donc c'est retenu à la source. Et si tout le monde acceptait le principe, déjà, au nombre de fonctionnaires, au nombre d'employés, d'agents publics qu'on a, l'État ne sera pas en faillite, comme quelque part on semble le voir maintenant. Et si on l'étale jusqu'au niveau des entreprises publiques et tout ce qui est entreprise de portefeuille de l'État, nous pensons qu'il y a possibilité que l'État joue son rôle d'être aussi un pourvoyeur dans les services liés aux besoins des employés. Donc, nous pouvons penser que si chaque citoyen a un numéro d'impôt, il y a pas mal de gens qui sont dans l'économie informelle, s'ils arrivaient à payer les impôts liés à chaque activité commerciale, il sera difficile que nous continuions à compter sur l'aide des FMI, de la Banque mondiale, juste pour faire quelques 2-3 ponts reliant deux petits villages. Donc je pense qu'à un moment donné, nous devrions commencer à accepter ces choses qui semblent difficiles à vivre, mais qui sont salutaires pour notre État et notre fierté nationale. Ça vous donne même la capacité de vous revendiquer l'identité nationale.
Bien, nous parlons du civisme fiscal. Pourquoi est-il important de payer les impôts? Nous invitons les auditeurs à participer, appeler au 081-890-6394. Nous recevons aujourd'hui M. Jacques Kambala, conseiller principal du coordonnateur adjoint de la cellule pour le changement des mentalités.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Encore une fois, bienvenue dans Capi Service qui s'intéresse aujourd'hui aux impôts, au civisme fiscal. On en parle avec Monsieur Jacques Kambala, conseiller principal du coordonnateur adjoint de la cellule pour le changement des mentalités. En ligne, nous avons deux auditeurs. Nous avons Bati, d'abord Kachai depuis Kanyuka et Benjamin Bati depuis Bounia. Kachai, bonjour.
Bonjour Monsieur, je dis Daniel Kachama et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Kachai?
Merci beaucoup, Monsieur Jody. La campagne du civisme fiscal a été lancée par le président de la République, comme vous l'avez souligné. C'est bien de payer les impôts pour permettre au gouvernement d'entreprendre des projets de développement dans le pays. Mais, Monsieur Jody, nous payons l'impôt pour les gouvernants et non pour nous, la population. Parce que toutefois, lorsque nous payons, l'argent de l'impôt profite à ces gouvernants-là. Aujourd'hui, nous constatons tous l'arrestation de ceux qui étaient dirigeants de ce pays, qui ont détourné l'argent du paisible citoyen à leur propre fin. Ils ont orienté cet argent-là, non dans les projets de l'État, mais dans leurs projets privés. Nous sommes en train toujours de pleurnicher, nous parlons de la misère, de la faim, manque de l'eau, manque d'électricité, mais eux se réjouissent. Monsieur Jody, nous payons l'impôt, parfois on nous coupe cet impôt-là sans toutefois savoir à quoi ça sert. Tel est le cas aujourd'hui des rames. En tout cas, c'est tout le monde qui parle du RAM en RDC. on coupe les rames et on ne sait même pas expliquer le pourquoi de ces rames-là, de cet impôt-là, que nous payons mensuellement. Monsieur Jody, on coupe, on retient l'hyper sur les rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État. Payé à une monnaie de singe, mais l'État se permet toujours avec toutes les plaintes qu'il y a, toutes les contestations qu'il y a, mais l'État coupe toujours l'hyper, sans savoir à quel degré de vie la population est en train de mener. Monsieur Jody, ici en province, nous avons certains impôts que nous payons, lesquels impôts qui trouvent leur sous-bassement dans la Constitution et dans certaines lois organiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, nous avons une direction provinciale, la régie financière provinciale. C'est cette régie-là qui perçoit les impôts de la province. Mais le résultat de l'impôt, monsieur Jody, est partagé entre le gouverneur des provinces et les députés provinciaux. Nous avons assisté à un scénario. Ils ont perçu l'argent. Le gouverneur ad interne, parce que le Kasaï central, ça fait autant d'années que nous sommes en train de connaître à la tête de la province des marches des gouverneurs. Nous en avons maintenant 8 et 10. Depuis 2007, alors, le gouverneur ad intérim a pris une grande enveloppe. Il a donné aux députés provinciaux. Mais il y a eu la guerre entre le président de l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux, M. Jody, à cause de l'argent que nous avons payé. Mais à quoi sert bon de payer l'impôt pendant que l'argent de l'impôt profite à ceux-là qui nous dirigent? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est pour la population, M. Jody. Je suis à Kanyuka. Est-ce que les habitants de Kanyuka disent, les villageois de Kanyuka, ils disent, depuis que l'impôt est depuis que le monde est monde, nos ancêtres n'avaient jamais payé l'impôt. Nous aussi, nous ne pouvons pas payer lorsque les collecteurs viennent demander le paiement. Ils disent cela. Alors, mais quelques jours après, ils demandent à l'État à ce qu'il puisse être desservi en eau potable. Je ne peux pas parler de l'énergie électrique parce que même les gouverneurs n'en a pas. Vous allez au gouvernorat, on allume un groupe électrogène.
D'accord. Quelle est la question, voilà, rapidement, pour que les autres aussi interviennent?
Oui, oui, monsieur Jody. La question, c'est dans les éléments que j'ai déjà rassemblés.
D'accord.
Est-il bon de continuer à payer l'impôt pendant que cet impôt-là profite à ceux-là qui nous dirigent? De deux, avec la campagne qui est lancée, comment convaincre la population à tout moment qui paye l'impôt et que cet impôt-là profite au gouvernement? Y a-t-il des mécanismes qui sont déjà mis en place pour que la population soit convaincue à ce que s'il paye l'impôt, quoi qu'il n'y a pas de contrepartie directe de l'impôt-là, mais ça va lui profiter dans ses avantages? Troisièmement, est-ce que l'invité peut parler de RAM, de l'hyper? Parce qu'on paye, mais vraiment, on ne voit rien sur les...
D'accord. Merci beaucoup, Kachai. Benjamin Bahati, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, rapidement, je salue d'abord la radio Capier, cher invité. Ma question est sur le vignette dont il a parlé. Par exemple, si nous sommes à Bounia, nous sommes à Ituri, mais il y a des véhicules, par exemple ici à Ituri, qui payent chaque fois vignette toujours, qui font des circulations de Bounia Nord Kivu, de Bounia Mahagi, mais à un moment donné, à notre grande surprise, nous trouvons que ces mêmes véhicules qui avaient payé les impôts sont incendiés. Ces mêmes clients qui avaient acheté les ponts de l'État sont calcinés. Ces mêmes concitoyens qui se sont donnés pour l'avancement, parce que les différentes taxes, ça donne l'avancement, ça donne le développement du pays. C'était vraiment un bon processus que le président de la République a lancé sur l'étendue de des territoires nationaux. Mais
d'accord,
lorsque nous payons les ponts ici, par exemple, les différentes taxes, Ces taxes nous servent à rien parce que nous continuons de compter des morts, les incendies des mêmes véhicules, les incendies des maisons. Alors, les pots là, les taxes comme EPO par exemple, si on parle des taxes en général, c'est devoir des citoyens congolais et puis les devoirs donnent maintenant droit à l'obligation. Mais lorsque nous soumettons sous notre devoir, maintenant l'État ne se soumet pas sous ses obligations. À quoi ces taxes, par exemple les dépôts, les différentes taxes seraient importantes pour la population de l'Ituri, par exemple,
de la
République démocratique en général.
Merci beaucoup.
Je ne comprends pas. L'État doit me répondre rapidement.
D'accord, il va vous répondre tout à l'heure. Monsieur Jacques Kambala, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Alors, lorsqu'on arrive à faire un constat de ce qui ne va pas, c'est qu'on fait déjà un pas dans la direction de la résolution du problème. Il ne suffit pas seulement de décrier ce qui ne marche pas, mais il faut aller dans la direction de proposer des pistes de solutions. Cette campagne vise donc à faire un équilibre entre le droit et les obligations, telles que les intervenants viennent de le dire. Quels sont les droits de l'État? Quels sont les droits de la population? Quelles sont les obligations des uns et des autres? Nous allons donc vulgariser les textes régissant le fonctionnement des régies et chacune de ces régies, ses objectifs, les taxes qu'elles devraient gérer, à quoi ça devrait servir. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la campagne va aller même dans les milieux ruraux pour apporter l'information. Nous pensons, si rien ne change dans notre calendrier, en attendant la réaction des autorités politico-administratives des provinces, nous avions aussi dit le VPM de l'Intérieur qui a déjà milité une communication envers toutes les provinces, que tous les gouverneurs mettent sur pied le moyen qu'il faut pour que l'équipe de la coordination pour le changement de mentalité qui va se déployer dans ces provinces avec les régies existantes dans chacune des provinces mette sur pied des stratégies spécifiques pour à la fois informer, équiper la population et aussi interpeller en mettant des mécanismes de contrôle tout cela qui gère mal les deniers publics. Nous devons comprendre que dans cette campagne, nous allons rapprocher plusieurs structures qui ont dans leur mandat à la fois la pédagogie et le côté coercitif pour que les abus et tous les dysfonctionnements soient minimisés au maximum, si pas éradiqués. Donc c'est une campagne qui ne viserait pas que le côté pédagogique, mais aussi s'asseoir avec tous les décideurs, le consommateur de chaque produit, les gestionnaires de chaque produit, comment apporter même des plaidoyers sur les réformes qui doivent être mises sur pied pour que la fiscalité dans ce pays se fasse selon les dispositions constitutionnelles. Tous ceux-là qui sont des mauvais gestionnaires devraient être sanctionnés et les bons gestionnaires devraient aussi être sanctionnés positivement. Donc nous devrons aussi arriver à comprendre que pour faire cette campagne sur toute l'étendue nationale, ça prend de former des volontaires ou des bénévoles qui vont constituer une brigade qui va descendre dans nos communes, dans nos milieux ruraux, pour jouer tout ce rôle de sensibilisation, de vulgarisation, mais aussi d'accompagnement. Alors, il faudrait que nous arrivions à amener aussi la population à aller vers l'information. Le ministère de Finances a mis sur pied un logiciel, une application pour dénoncer tout dysfonctionnement dans la question fiscale, la question des finances de pays. Donc, cette application est déjà fonctionnelle. Ça a été lancé officiellement le 11 septembre par le chef de l'État. Si vous dénotez un dysfonctionnement quelque part, allez dénoncer ces choses-là. C'est votre droit constitutionnel d'exiger aux dirigeants, aux gouvernants, une gestion saine et responsable.
Bien. Monsieur Jacques, un instant, on va accueillir Jean Cotta depuis le Haut-Ouélé. Jean Cotta, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est votre question?
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question par rapport à la campagne sur les civismes fiscales?
Merci pour la parole que vous nous accordez. Je voudrais juste dire à notre invité que nous sommes pour la campagne. Mais ce que nous regrettons, c'est qu'il n'y a pas de sérieux dans ce pays. Permettez-moi, je ne suis pas pessimiste, mais j'ai quand même fait ce constat, je ne suis qu'un libre passeur. Bon, nous avons maintenant 26 provinces dans notre pays. Est-ce qu'il peut nous dire clairement, depuis qu'il a commencé à patronner ses services, telle province a donné combien et qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Donc, ma question, c'est pourquoi il n'y a pas les sérieux dans notre pays? Nous allons payer, les Congolais vont contribuer, mais cet argent finira par servir les hommes politiques. C'est ce que nous déplorons tous. Merci.
Bien, voilà, les auditeurs déplorent le fait que qu'ils contribuent, mais il n'y a pas de rédévabilité, il n'y a pas de transparence. Les gouverneurs ne reviennent pas vers la population pour dire, voilà, l'argent que vous avez donné, ça a servi à construire telle route, les ponts, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, M. Jacques Kambala?
Déjà, dans la politique globale de la gestion de la chose publique défendue par le chef de l'État, les gouverneurs de chaque province ont un mandat bien précis et les assignations qui leur sont données. Il y aura un moment d'évaluation et chaque gouverneur devrait rendre compte de comment il a géré la province. Et si la question de mes gestions sur tout ce qui a été taxes et rédévances collectées reprend à surface, c'est ceux qui vont rendre compte de comment ils ont géré. Nous ne pouvons pas rester sur cette note-là de constater que les politiciens congolais avaient mal géré et ne pas aller au-delà du constat, parce que le constat, tout le monde l'a fait. Les antivaleurs sont partout. Maintenant, nous allons dans une autre phase que tous ensemble, nous combattions ces antivaleurs. La coordination pour le changement de mentalité a besoin de quiconque pour qu'ensemble, nous combattions ces antivaleurs. Donc la population devrait continuer à espérer que cette lutte arrivera à atteindre ses objectifs si tout le monde s'y implique. On ne peut pas espérer avoir de bons hôpitaux, avoir de bonnes écoles où nos enfants vont étudier, si nous refusons de nous engager dans cette voie-là de changement de mentalité. Voilà qu'est-ce que nous pouvons nous dire globalement à toutes ces préoccupations que nous partageons tous.
Bien, on va accueillir Mathieu Cassis depuis Béni. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Quelle est votre question rapidement, Mathieu?
Oui, avant d'y arriver à la question, je voulais dire que l'impôt, certainement, c'est un mécanisme qui constitue la principale source de revenus de l'État. Et cela, ça permet à la couverture des charges publiques et ceux qui sont notamment compris dans l'exercice budgétaire. Néanmoins, moi, je voulais dire que il est des principes. On a toujours entendu qu'il y ait trop d'impôts, tue l'impôt. Donc là, je voulais faire allusion à la taxe RAM qu'aujourd'hui, on est victime. Vraiment, on ne sait pas la destination des fonds qui sont perçus par cette taxe RAM. Et cela est en train de nous faire donner des idées qu'il faut fuir, même taxer. Donc, et lorsqu'il y a trop d'impôts, ça nous amène, nous comme citoyens, de chercher des mécanismes de tomber sur des fraudes fiscales, mais aussi des évasions fiscales. Et en tout cas, le civisme ici dont l'invité est en train de nous parler, le civisme fiscal, moi, je dirais que ça doit d'abord commencer à nos autorités.
Merci. Donc, il faut commencer d'abord par... Les autorités doivent donner l'exemple, le ton, et puis la population va suivre. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Kambala. Les auditeurs reviennent sur la taxe RAM qui énerve les gens, qui a suscité un tollé à travers le pays. surtout à cause du mode de prélèvement, les gens rechargent leur téléphone et puis bon voilà, on coupe, les crédits sont partis et puis bon, on dit que c'est pour installer la connexion internet alors que tout le monde n'est pas au niveau des universités, tout le monde n'est pas universitaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela?
Bon, à mon humble avis, je pense que on aurait dû faire un bon travail de marketing avant la mise à l'application de la mesure instaurant le RAM. J'ai l'impression que ce travail-là n'a pas été fait tel que la population comprenne ce à quoi on allait s'engager, ce qui relève donc de tout dirigeant, de tout gouvernant, de mieux expliquer les réformes avant de les mettre en pratique. Maintenant, il faudrait que ceux-là qui sont concernés par la gestion et de cette rame s'assoient et évaluent quelque chose qui est nouveau pour la population. Si le mécanisme n'est pas bien consommé, ça risque de passer comme un élément, une astuce pour retirer l'argent du portefeuille de la population. Donc je pense que il faudrait arriver à bien communiquer là-dessus, et s'il y a possibilité de prendre en considération les réactions de la population pour réajuster ce qui a réajusté, nous le conseillerons vivement. Là, il ne s'agit pas que de RAM, il faut communiquer aussi sur le TVA et sur différentes taxes qui sont là. Ça prend maintenant, pour que cette culture s'installe, il faut que l'État communique directement avec la population, trouve des moyens de passer le message.
Bien, quelqu'un est revenu sur le fait que pour instaurer cette culture, c'est le civisme, cette culture fiscale, il est important que les dirigeants donnent le temps, que l'on voit les autorités, les députés et autres en train de payer les impôts, et ça va aussi inciter la population à faire autant.
Oui, effectivement, c'est ça tout notre travail. Déjà, à titre d'information, depuis le lancement officiel, nous avons eu énormément de réunions hors caméra avec les différentes structures concernées par la question de la gestion de la fiscalité là, sur le plan national. Mais nous avions rencontré il y a quelques jours les responsables de tous les médias pour leur rappeler leur rôle comme quatrième pouvoir, non seulement dans l'information de la population, mais aussi dans la formation de l'opinion publique. Il faudrait que le média fasse un grand travail auprès des gestionnaires, et il y a des séminaires qui sont prévus déjà qui commenceraient la semaine prochaine. Nous travaillons directement avec toutes les entreprises de portefeuille de l'État pour qu'elles prennent conscience de ce que la population attend des dirigeants. Donc nous comprendrons que le mal s'est étalé sur plusieurs générations. Arriver à le combattre aujourd'hui, ça prend beaucoup de persévérance, d'abnégation, de détermination, et nous avons besoin du support de toute la population.
Bien, Monsieur Jacques Kambala Chilombo, conseiller principal du coordonnateur adjoint de la cellule pour le changement des mentalités. Merci. Excellente journée et à la prochaine.
Je voudrais corriger quelque chose. C'est conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité.
D'accord, merci. Bonne journée et à la prochaine.
Merci à vous aussi.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Civisme fiscal, pourquoi est-il important de payer l'impôt? Nous avons en ligne le professeur Saint-Augustin Mwendambali. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour les auditeurs de Radio Capi.
Bien, professeur Mwendambale, vous êtes historien des mentalités. Avec vous, nous parlons de cette question, le civisme fiscal. On a vu que depuis quelque temps dans notre pays, les citoyens congolais ont du mal à payer l'impôt et pour plusieurs raisons, parce que du côté redevabilité, les dirigeants ne rendent pas compte aussi, comme il se doit, des fonds récoltés et du travail qui a été fait. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour instaurer concrètement la culture fiscale dans notre pays?
Bon, il est vrai que l'historique de la culture fiscale dans notre pays est fait d'un certain nombre de zones de turbulence. Vous savez que la notion de l'impôt, nous l'avons découverte seulement avec la présence coloniale, oubliant que même dans un village traditionnel lointain, que les habitants, les paysans, quand ils allaient cultiver leurs champs, il y avait toujours un petit panier qu'on réservait à l'attention du chef comme contribution aux efforts de la gestion de la localité. Alors, arrivé avec l'événement colonial, avec la colonisation, le blanc va essayer d'amplifier cette notion en y introduisant celle de redevabilité des devoirs et obligations. Au point, au cas où on ne respectait pas ces devoirs et obligations, on était parfois sanctionné sévèrement en utilisant la chicotte et parfois en amputant les mains des gens pour un bol de caoutchouc qui n'ont pas pu totaliser. L'impôt prenait alors, à ce moment-là, une forme contraignante, une forme qui ne s'écarte pas du tout de servage. Là, l'homme a adapté une autre mentalité de résistance à ce paiement de l'impôt. Ainsi, dès que l'indépendance est arrivée, l'homme congolais, l'homme autochtone, s'est vu comme libéré de cette contrainte d'impôt pour lequel il perdait ses parties du corps. L'impôt aura alors un cachet négatif dans le mental de l'homme ou du paysan congolais. L'indépendance étant venue, indépendance tcha-tcha, indépendance économique, indépendance politique, mais aussi refus de payer l'impôt. L'impôt était identifié à la présence de l'homme noir et massacreur. Cet aspect a beaucoup prédominé dans le subconscient de l'homme congolais ou de tout simplement du paysan. Ainsi, nous nous sommes écartés de la culture des contributions bénévoles à laquelle on s'est livré avec nos chefs traditionnels. Quand on plantait son champ, quand on tuait un éléphant, on ne pouvait pas un petit morceau, manquer un petit morceau pour amener effectivement au chef de la collectivité. Cette animosité envers l'impôt va se cultiver davantage au point où il y a un deuxième phénomène qui va intervenir. Quand on paye l'impôt, où va cet argent? Cet argent d'abord est dilapidé par les percepteurs eux-mêmes d'impôts. Au lieu d'amener l'argent vers la caisse de l'État, ils en amènent que à compte-gouttes, soit sur 100 000 récoltés, le percepteur ne déposera que 20 000 et les 80 autres, il en fera son affaire. Une fois que le décideur politique entre en possession maintenant de ce qu'on lui a apporté, lui aussi, au lieu de donner pour les travaux d'intérêt communautaire le 20 000 qu'on lui a donné ou le 20%, il va prendre 5%, il met pour les travaux d'intérêt communautaire et les 15%, il met dans sa poche. Devant ces deux attitudes paradoxales, les gens qui sont censés récolter les impôts pour permettre au gouvernement ou à l'État d'avoir la politique de ses moyens, la sujette, celui qui avait peur de payer l'impôt, découvre une deuxième astuce. Je préfère ne pas payer l'impôt pour ne pas enrichir. les percepteurs oui. et les décideurs.
Donc il y a eu un problème de confiance. La confiance n'est plus là. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour la rétablir, professeur?
La confiance est que nous ne devons pas nous réfugier dans une littérature élitiste. La Constitution, à son article 65, dit clairement que tout citoyen est obligé de s'acquitter de ses obligations fiscales. Mais est-ce qu'il comprend qu'est-ce qu'est obligation fiscale? Le point de départ, c'est celui-là. Il faut dire, pour que l'État puisse, l'État, il est le propriétaire du sol et des sous-sols, et s'il vous concède une partie de sa propriété, il ne dit pas qu'il renonce à ses droits d'une manière éternelle. C'est pendant un laps de temps qu'on vous donne, et en contrepartie, vous devez aussi payer une taxe de participation aux efforts de la construction de la nation.
Professeur.
L'État est une l'État est une personne morale.
Oui.
Vous verrez pas l'État se mettre devant vous pour venir vous demander cette taxe. Mais c'est à vous de savoir qu'à travers les bâtisses qui érigent l'État, à travers les hôpitaux, les écoles, les routes, à travers le salaire que les fonctionnaires payent, c'est l'État qui paye ces individus, ces entités. Et l'État ne peut pas faire autrement que de recourir, d'utiliser cette taxe pour s'acquitter aussi de ses devoirs vis-à-vis des citoyens. Donc l'impôt, bref, c'est une conscience participative aux charges de l'État. Il faut le dire en des termes simples. Même un garçon qui a grandi dans sa propre famille, quand il commence à toucher, ce n'est pas le papa toujours qui donnera l'argent des rations. À un certain moment, il se dira, mais moi aussi je touche, je dois contribuer à la survie de la famille. C'est ça l'impôt. Mais les Congolais veulent prendre l'impôt pour quelque chose de diabolique. On vient m'imposer, je devrais vivre librement, j'ai déjà mon indépendance. Non.
Professeur Mouindambale, aujourd'hui, la question de la taxe RAM sur la taxe sur le registre des appareils mobiles fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les gens sont très fâchés à travers le pays parce que chaque fois qu'ils rechargent leur téléphone, les crédits partent aussitôt pour ces taxes. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous trouvez pas que cela vient encore renforcer?
Je me suis plaint aussi de cette manière de pouvoir procéder.
Oui.
La manière comme telle n'est pas du tout mauvaise. Ce qu'on condamne, c'est cette absence de communication qui n'a pas eu lieu entre l'État et ses citoyens. Expliquer les bien fondés de la taxe RAM, c'est d'abord dire que nos enfants doivent étudier. Ils n'ont pas de bourses d'études. Nous devons préparer l'élite de demain. Or, cette élite est dépourvue de moyens pour entrer, pour faire des recherches au niveau des bibliothèques, des ordinateurs, tout ça. Il faut en avoir. Donc, nous allons inventer une petite taxe qui serait même convertie en bourse d'études. Et j'aurais souhaité qu'on utilise cette expression-là, en bourse d'études, pour permettre à nos enfants de pouvoir être informés à temps réel en utilisant les instruments liés à la technologie, aux nouvelles technologies de l'information. C'est cette absence de communication. L'idée comme telle n'est pas mauvaise, mais il ne fallait pas l'imposer. Il fallait, même s'il le faut, faire passer cela par le Parlement. Dire que désormais nous créons telle taxe au biais d'une loi économique, pour permettre à nos enfants, pour permettre à tout citoyen qui n'a pas les moyens de pouvoir passer une communication en cas d'accident, en cas d'incendie, en cas de vol. Voilà ce qui a manqué. La taxe santé n'est pas mauvaise, mais c'est l'approche qui a été très mauvaise parce qu'elle n'a pas été consultative.
Voilà, elle n'a pas été consultative. Maintenant, nous parlons de cette culture fiscale qu'il faut instaurer. Quelles sont les stratégies pratiques à mettre en place pour, n'est-ce pas, arriver à instaurer la culture fiscale dans notre pays?
Ah, vous savez, je pensais une petite histoire simple, une légende là, pour pouvoir expliquer ça à nos enfants. Nous sommes dans un royaume d'un certain monsieur qui s'appelle Congo. Étendue de terre colossale. richesse colossale. Mais cet homme, n'ayant pas de gens pour cultiver la terre, pour exploiter, et n'ayant pas de moyens pour le faire, il a préféré sous-louer ses espaces à certains citoyens qui pouvaient lui donner en contrepartie une petite taxe. Hein? C'est la même histoire. Alors imaginez-vous, vous avez cédé vos biens à quelqu'un, il doit donner une petite contribution symbolique, parce qu'on dit les biens de l'État ne sont pas des biens marchands. Vous comprenez bien, ce sont les biens et services qu'aura la collectivité. C'est symbolique. Un commerçant vous demanderait plus, mais l'État vous demande que 40%. Alors vous gagnez 60%, 70%. Vous ne voyez pas déjà qu'il y a cet esprit de participation mutuelle. Alors montrez maintenant aux agents et aux fonctionnaires de l'État et à tout individu, vous faites louer une maison que vous avez construite, il est vrai, sur un espace que l'État vous a concédé. Pourquoi ne pas restituer ne fût-ce que 2 francs symboliques sur le montant de loyer chaque mois pour permettre à l'État de remplir, d'accomplir d'autres missions? Les routes ne seront pas asphaltées, les écoles ne seront pas construites, les hôpitaux, mêmement, les fonctionnaires seront toujours mal payés. C'est cette petite taxe qui permet à l'État de s'acquitter de ses charges. Et les Congolais doivent comprendre et intérioriser cela. L'impôt ne sera plus comme une punition, une sanction, mais comme une conscience participative aux frais généraux de la République, aux frais généraux de l'État, aux charges de l'État, je voulais dire. Voilà un peu le discours que je mets. Un discours simplifié, pas un discours contraignant, un discours qui explique bien les fondements avec des exemples concrets. Partez de la famille. Partait d'un garçon qui est allé à la chasse avec ses 2 amis. Il a abattu un éléphant. C'est lui qui a abattu. Mais pour rentrer à la maison, il va chercher un petit morceau. Il donne aussi à ses collègues. Vous avez été avec moi. Même si vous n'avez pas abattu un éléphant, prenez quand même vous si vous allez manger. C'est une façon de contribuer, de partager avec la collectivité, avec la communauté. C'est ça le sens de l'impôt.
Bien, professeur, on va terminer avec la question de Christian depuis Ituri. L'Ituri. Oui. Christian, bonjour.
Ouais, bonjour.
C'est plutôt Safari depuis Gabarière. Ok, quelle est votre question, Safari?
Ouais, j'aimerais dire ceci. Je crois qu'on en parle à tété pour le paiement de dépôts, parce que à ce niveau-là, c'est le devoir qui nous appelle déjà. Alors, ma question était de savoir, est-ce que tout le monde paye les ports au même titre? Donc, pour dire un habitant de la ville avec un villageois qui n'a pas peut-être les moyens, est-ce qu'il paye les ports sur le même titre?
D'accord. Merci beaucoup. Professeur Mwendamba, les un citadin et un villageois, ils payent tous les impôts au même titre?
Écoutez, effectivement, l'impôt est taxé selon certaines échelles de valeur. Vous n'allez pas demander à celui qui touche 100 000 francs, il paye un impôt chaque fin de l'année, il a à peu près 1 100 000, et qu'il paye le même 1 100 000. Non, on doit calculer en fonction des avoirs, des entrées qu'il a. Les courants, par exemple, dans la ville, il y a une consommation qu'on appelle les charges communes. Pour l'éclairage public, on paye. Vous n'allez pas demander, du côté de la SNEL, je disais, vous n'allez pas demander à un paysan qui vit dans la forêt, où il n'y a pas même la moindre lumière électrique, de participer à des taxes pareilles. Non, c'est au prorata de ce que vous gagnez. Et en Europe, pour les gens qui ne gagnent rien, c'est la même impôt qu'on reprend encore pour pouvoir redistribuer et payer ce qu'on appelle les CPS, les gens qui vivent avec l'aide publique de l'État. C'est dans le même montant où on paye les chômeurs qui ne peuvent pas avoir un salaire. Et on pense à eux parce qu'ils ont des familles. Voilà pourquoi est-ce qu'on donne des indemnités, même des chômages en Europe. Donc les gens, il faut y aller mollo, pas des termes simples, afin que les gens comprennent que l'impôt, c'est une contribution. C'est une conscience participative aux charges de l'État, aux charges communautaires pour le développement de notre pays.
Bien, professeur Saint-Augustin Mwendambale, je rappelle que vous êtes historien des mentalités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, Jody. Merci.